L'esprit critique. Mediapart.
Un braquage de banque sans effraction, une plongée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes tout en douceur et en lenteur, et le portrait d'une peintre tout en affection. Les trois films dont l'esprit critique s'empare aujourd'hui ont comme point commun d'avoir pris le temps nécessaire pour saisir leur sujet avec lequel ils affichent ouvertement leur empathie et leur tendresse. On évoque aujourd'hui Los Delincuentes, le nouveau long-métrage du réalisateur argentin Rodrigo Moreno, et en écho au cinéma du réel qui s'est ouvert à Paris, deux documentaires, Apollonia Apollonia, de la réalisatrice danoise Léa Globe, et Direct Action, des réalisateurs Ben Russell et Guillaume Caillot. On en parle avec Salima Tenfish, docteur en cinéma et chargée de recherche EHESS MUSEM, Alice Leroy, qui écrit à la fois au Cahier du cinéma et pour Panthère Première, et Raphaël Neuillard, qui écrit lui aussi au Cahier du cinéma, mais également pour Études. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Los Delincuentes est le nouveau film du réalisateur argentin Rodrigo Moreno qui signe là son sixième long métrage. Moran, la quarantaine, est employé de banque et décide de soustraire à son employeur non pas tout l'argent dont il aurait pu s'emparer, mais l'équivalent de ce que lui et son collègue Roman, qu'il inclut dans le projet contre son gré, pourraient toucher jusqu'à leur retraite. Moran a planifié son arrestation et va se dénoncer, sachant que pour un tel crime, la peine encourue est de 6 ans et de 3 ans et demi seulement s'il se comporte de manière exemplaire en prison. Il préfère ainsi quelques années derrière les barreaux, en dépit de la violence des caïds, plutôt que deux décennies derrière les hygiaphones de sa banque.
Tu es une mujer qui travaille, Jamal?
Qué pasa? Te vine a proponer algo. Necesito que cuide ese bolso por 3 años y medio. Tiene 650 000 dólares. Hoy saqué el banco.
Le film s'engage ensuite avec une assez grande liberté de narrative dans des épisodes amoureux, champêtres, carcéraux pendant plus de 3 heures. Alors ce film parle d'argent pris à une banque, mais c'est pourtant presque l'envers d'un film de braquage qu'il propose. Comment détourne-t-il, inverse-t-il ce classique du genre cinématographique, Salima Tenfish?
Oui, alors ce qui est assez plaisant avec Los Delincuentes, c'est que on commence, comme tu l'as dit, avec un genre filmique qui est celui du film de braquage, où on peut retrouver quelque chose de Un après-midi de chien de Sidney Lumet, par exemple, film des années 70. Mais immédiatement, on évolue vers toute une panoplie de genres filmiques qui nous éloignent de cet environnement étouffant qui est celui d'une banque, dont on ignore d'ailleurs l'époque, puisqu'on n'a aucun élément qui nous permet de nous situer au début du film.
Et on a l'impression... pourrait croire qu'on est dans les années 70 et quand même, et puis après, en fait, ça pourrait être juste une Argentine un peu en crise.
Complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'on est dans les années 70 parce qu'on a un décor qui nous emmène dans quelque chose de dans des couleurs marron grises qui est presque du Coris Maquis, en fait. Il y a quelque chose comme ça d'étrange au début du film, voire des premiers Almodovar avec ces personnages en crise suite au braquage de l'un de leurs collègues, dont un qui fait une crise cardiaque ou qui est très inquiet, et tous ces personnages qui ont des réactions hystériques par rapport à leurs collègues. Et ensuite on évolue petit à petit vers quelque chose du film de la Nouvelle Vague, quelque chose de romérien, avec des amours dans les champs et au bord de la rivière, puis un récit d'amour enchâssé, une romance qui nous rappelle presque Emmanuel Mouret, donc changement de tonalité complète, pour terminer dans le grand large, qui est celui du western.
Alors qu'est-ce que Alice Leroy vous diriez ça? Parce que c'est à la fois celui du western, mais on pourrait dire que c'est aussi un anti-film de western. C'est aussi un contre-polar, c'est aussi presque un anti-film de retour à la nature, parce que ça marche pas tout à fait. On a l'impression que à chaque fois, il s'agit de déjouer le genre dans lequel on a l'impression que Rodrigo Moreno veut emmener son spectateur ou sa spectatrice.
Oui, le film échappe sans cesse à ce qu'il semble être à première vue. Mais peut-être, je pensais que ce serait intéressant de resituer un peu le film dans le contexte économique et politique dans lequel il arrive aujourd'hui, parce que depuis décembre dernier, le président argentin, donc Javier Milei, est cette espèce de, bah, je crois qu'il se définit lui-même comme un anarchiste capitaliste. Donc c'est une sorte de fou furieux qui a pris pour cible à peu près tous les services publics et qui a commencé à démanteler notamment, entre autres, la culture et le cinéma. Donc il a privatisé l'école de cinéma, il va mettre un terme à l'histoire des grands festivals de cinéma comme Mar del Plata. Enfin, c'est une tragédie là, ce qu'est en train de vivre l'Argentine en termes de politique culturelle et de politique économique. Et donc, dans ce grand mouvement de destruction, en fait, des institutions publiques de soutien de la création cinématographique, on a paradoxalement un cinéma argentin qui n'a jamais été aussi florissant en termes de nombre de films produits. Je crois qu'il y en a plus de 200 cette année. Et en termes aussi de reconnaissance internationale.
Oui, le dernier numéro des Cahiers du cinéma titrait justement là-dessus, sur cette puissance du cinéma argentin comme un des plus importants contemporains. Donc, comment est-ce que, enfin, pourquoi et comment est-ce qu'on inscrit ce film-là là-dedans ?
Bah, y a une sorte de paradoxe qui est que, par exemple, enfin, le collectif El Pampero qui est mis en valeur dans le dernier numéro des Cahiers, qui est un collectif de 4 cinéastes qui a déployé une ingéniosité absolument extraordinaire pour résister aux difficultés économiques de l'industrie du cinéma, a réinventé complètement des modes de production en adoptant tous les rôles, c'est-à-dire que certains sont réalisateurs sur un film et puis sur le film suivant ils deviennent producteurs, acteurs, voilà, ils changent de rôle à chaque fois et ils ont appris à tourner dans des conditions extrêmement précaires avec peu d'argent sur des durées, donc des années très très longues en se débrouillant, c'est de la bricole et de la débrouille. Et d'une certaine manière, le film de Rodrigo Moreno, il s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Alors Moreno fait pas partie du collectif El Pampero, en même temps il est lié à une revue de cinéma à laquelle participe aussi Mariano Linas, qui est l'un des membres d'El Pampero, qui a fait La Flore, un film extraordinaire, encore plus long que celui-ci, qui était sorti en 2017, je crois. Et on voit bien que finalement, Los Delincuentes, c'est l'adaptation d'un film plus ancien argentin de 49 qui s'appelait L'Affaire de Buenos Aires, mais on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est pas du tout le polar ni le film de braquage, et que très vite, il s'agit de faire une fable sur le rapport entre l'argent et la liberté. Et où on voit que finalement, l'argent volé à la banque n'est pas un gage de liberté. Hein, l'argent ne suffit pas au bonheur. Et en même temps, le film, du coup, va détourner cette opposition un peu facile qu'on aurait pu faire entre le travail, la liberté, la ville, la campagne, l'asservissement, et puis au contraire, l'utopie communautaire.
Raphaël.
Oui, effectivement, le film se détourne du genre, mais enfin du genre du film noir, mais il en garde ce qui, à mon avis, en fait le charme aujourd'hui. C'est pas forcément les intrigues, mais c'est son ancrage urbain. Et c'est ça qui est assez frappant dans la première partie du film, c'est le fait que justement on voit la ville de Buenos Aires, qu'on voit les passants, on voit les vitrines, on voit.
Oui, d'ailleurs, il y a des travelling entiers sur des bâtiments emblématiques ou pas d'ailleurs de la ville.
Absolument, oui. Et ça, cet ancrage est très très fort. Et il me semble qui se raréfie dans le cinéma, même des films qui sont tournés dans les rues, en général, finalement, on voit pas de passants et on se resserre sur les personnages. Ou alors, on a des figurants voilà, qui ne... Et la ville n'est pas documentée en tant que telle. Alors que là, il y a vraiment un souci de documenter la ville, et c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les films noirs des années 40-50, américains. Mais donc, j'imagine que... Je n'ai pas vu le film d'Hugo Frégonès dont il s'inspire, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est en quelque sorte, pour moi, c'est la substance du film noir, c'est la ville, c'est pas tellement les intrigues et les vols et compagnie. Par ailleurs, effectivement, le film travaille cette sorte de couplage entre l'argent et le temps. Hein, on connaît cette fameuse maxime « le temps, c'est de l'argent » qui voilà, hérité, disons, du protestantisme. Et toute la question, ça va être... Et finalement, le personnage lui-même s'inscrit là-dedans avec un calcul rationnel. C'est pas un vol démesuré.
Enfin, l'inverse, il dirait « l'argent, c'est du temps voilà. ». Si je prends cet argent, ça me donnera du temps.
Voilà, exactement. Il renverse l'adage, mais il reste quand même dans un calcul rationnel, finalement presque raisonnable, puisqu'il ne vole que son salaire. Et d'une certaine manière, il ne cherche pas à avoir une...
Que le salaire qu'il aurait eu pendant 20 ans, voilà, s'il était resté dans la banque.
Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, il prend une avance sur son salaire en le découplant du travail. Mais c'est un calcul assez particulier qu'on voit finalement peu dans les films de braquage où il s'agit juste d'emporter le plus possible. Alors, à partir de là, ce qui est frappant dans le film, c'est que finalement, ce temps qu'il se libère ou qu'il est censé se libérer, on ne le verra jamais, puisque le film s'achève au moment où justement il sort de prison. Et durant les 3 heures de film, on pourrait se dire, bon, ben, on va le voir jouir de cette liberté. Et finalement, non. Mais il y a quand même un moment où son rapport au temps se transforme et il n'est pas tellement lié justement à la libération de prison, mais il est lié à... la création d'une forme de continuité dans l'expérience de la durée. S'il y a une séquence vers la fin où il est en train de lire un poème qui s'appelle « L'obsession de l'espace », si je ne me trompe pas. Mais ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, bon, on peut se dire qu'il est enfermé et puis il y a l'espace grand ouvert qui s'ouvre à lui à travers ce poème. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le film crée des effets de continuité. Il continue à lire, à réciter ce poème le jour, la nuit, etc. Et finalement, à ce moment-là, on sent qu'il y a un autre rapport au temps qui se noue à l'intérieur même de la prison, où par ailleurs, le Caï lui dit « Ici, on a tout le temps du monde, sauf quand on est au téléphone. Et au téléphone, il faut, quand on téléphone à l'extérieur, il faut se dépêcher. » Et donc, toute cette question de du rapport contraint au temps, en fait, il se matérialise aussi bien en prison qu'à l'extérieur. Et toute la question, ça va être de savoir, bon, bah, au fond, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là et quelle expérience on a d'un temps qui n'est plus réglementé, enfin, ou en tout cas organisé par le travail, les horaires, etc.
Oui, alors justement, sur ça, Salima Tenfish, parce que bon, on pourrait dire que d'une certaine manière, le message est très clair, plutôt 3 ans et demi de prison que 20 ans de travail. Mais comment est-ce qu'il en fait autre chose qu'une simple déclaration politique ? Est-ce que c'est précisément parce que le film prend lui-même quand même le temps de se raconter ? Il est long, mais il fait aussi des détours, il y a quelques accélérations, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a des flashbacks, enfin, on est dans une narration assez éclatée. Est-ce que c'est au fond la coïncidence, je dirais, entre la matière formelle qu'on nous donne à voir et le discours qu'il pourrait porter qui en fait sa réussite, si c'en est une ?
Oui, complètement. C'est-à-dire que l'esprit de liberté qui est au cœur de ce film, et je dirais même plutôt l'acte de libération, d'affranchissement vis-à-vis de la servitude du salariat et donc de la dépendance à l'activité, à l'emploi. D'ailleurs, le film m'a fait penser à ce tout petit court-métrage qui s'appelle El Empleo, qui est aussi sur cette question-là de l'asservissement, la déshumanisation des hommes qui doivent travailler pour vivre. Donc la force du film, c'est de réussir à mettre en parallèle ce personnage de Moran qui, lui, fait acte de volonté. Et d'ailleurs, cette notion, cette question de la volonté, elle est présente par des tout petits détails dans le film, quand il est question à plusieurs reprises du fait d'arrêter de fumer et que c'est qu'une question de volonté. Lui fait acte de volonté, il se saisit de cet argent qui est là, qui lui permet de se libérer. Tandis qu'en parallèle, en fait, tout le film est monté...
Mais par ailleurs, il reprend une clope.
Et voilà, et c'est ça, parce qu'il a la volonté ou le désir de le faire. Donc il est à chaque fois, cette volonté, elle est toujours mise au service de son plaisir. Et en parallèle donc, de la vie de Moran, on suit cet acolyte malgré lui qui est Ramon, avec un jeu sur le nom. Donc tous les personnages du film sont des anagrammes de Ramon, Moran, Roman, Norma, Morna.
Ouais, alors ça c'est une question, pourquoi ? Vous l'avez compris,
parce
comment
que
vous...
ça ajoute...
C'est des personnages interchangeables ?
C'est une allégorie.
Ça, ouais, c'est le fait que tous ces personnages sont des vies possibles de ces argentins de la ville d'un certain âge qui peuvent avoir différentes trajectoires, mais ça ajoute une étrangeté. Je parlais tout à l'heure de Coris Maki, ça ajoute quelque chose d'étrange, de drôle, de loufoque au film, qui permet de jamais être ancré dans la réalité misérable de cet employé de banque qui veut se débarrasser de son costume qui le présente comme forme de robot dès le début du film. Donc c'est toute la liberté de ton et formelle du film. Il y a plein de procédés filmiques qui sont là simplement pour le plaisir du film. Il y a des jump cuts, des split screens, un volet. Donc des éléments qui sont au service de cet esprit de liberté, de plaisir formel du film et de passer à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, d'un genre à l'autre pour échapper à cette vie morne de la ville dont Moran essaye de s'enfuir.
Raphaël Neuer.
Ce qui est aussi assez beau dans le film, c'est que d'une certaine manière, Moran, en faisant ce pari, donc de passer 3 ans et demi en prison, il fait aussi le pari que d'une certaine manière, les autres vont se soustraire au passage du temps et qu'ils vont l'attendre en dehors. Alors soit l'attendre par contrainte pour son collègue qui est embringué là-dedans, mais aussi l'attendre par amour, parce qu'à un moment il rencontre une femme et juste avant d'entrer en prison, et puis en gros il lui dit je reviens dans 3 ans et demi, et en réalité la vie des autres continue. Et donc là il y a aussi quelque chose d'assez douloureux dans le film et qui est très très beau sur le passage du temps. Et d'ailleurs, tous les personnages ont la quarantaine, et c'est aussi quelque chose qui compte évidemment dans la construction des personnages, c'est-à-dire cette idée qu'ils sont quand même plutôt dans la deuxième partie de leur vie et que à ce moment-là ils sentent que il y a quelque chose d'inéluctable qui est en train de se jouer aussi pour eux.
Oui, mais sauf justement ce que je voulais dire tout à l'heure, la mise en parallèle, le personnage de Ramon lui est un personnage qui fait qu'attendre, en fait, qui est entièrement passif, et ce qui permet aussi de mesurer la décision.
Alors Ramon, c'est lequel, parce qu'on s'y perd.
C'est l'employé de banque qui se retrouve.
Non, Ramon, c'est le cinéaste.
Roman. Roman, c'est donc l'acolyte et le collègue de banque de Morane. Et lui n'a rien décidé, justement. Et d'ailleurs,
c'est lui à qui son collègue a demandé de garder l'argent pendant 3 ans et demi. En lui disant qu'en gros, s'il ne le fait pas, il va le dénoncer comme complice.
Et docilement, de la même manière qu'il accepte son emploi, qu'il accepte sa condition quant à lui, il accepte de garder ce trésor qui finit sous une pierre. Et il n'y touche pas. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer dans un film de braquage classique, un rebondissement où l'acolyte trahit son ami et récupère le pactole. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe dans le film.
Mais peut-être une des dimensions qui, moi, m'a beaucoup passionnée dans le film, c'est la façon dont il échappe à la fois au code du film de genre, parce qu'effectivement, ces deux personnages interchangeables, Morane et Roman, sont pas à la hauteur, ils sont pas taillés pour ce costume de braqueur et ils savent pas vraiment finalement quoi faire de leur rôle. Et en même temps,
Mais ça n'a pas empêché Sidney Lumet de faire un après-midi de chien.
Oui, mais pour autant, je pense que le film ne se situe pas du tout dans cet héritage-là parce qu'il va vers une veine qui n'est pas non plus celle du réalisme. On aurait pu imaginer qu'il fasse un portrait très réaliste de la crise économique argentine, de ces hommes argentins confrontés à une impasse politique et comment, en fait, reconquérir une forme de liberté dans un pays où en fait, on est dans une impasse politique totale. Parce que je trouve que la voie qu'il emprunte, qui est celle de la fable et qui, à mon avis, tire plutôt le film vers la littérature, en fait, même vers le jeu, en fait. Tous ces jeux que les personnages inventent entre eux. Ce que je trouve assez beau, c'est que rien n'est jamais résolu et il y a une manière, par exemple, de présenter tout ce monde, cet envers du monde urbain, qui est le monde de la campagne, qui pourrait être un endroit complètement idéalisé, qui pourrait être en fait la solution politique, une sorte de communauté utopique qui vivrait en retrait du monde dans cette province de Cordoba, qui est absolument magnifique. Et ben, en même temps, c'est pas non plus un paradis. Et cette petite communauté utopique est formée par les trois autres anagrammes de Roman et Morane, Norma, Morna et Ramon, qui sont ces cinéastes qui en même temps sont totalement improductifs parce qu'ils produisent rien finalement.
Ils passent plus de temps à sauter dans la rivière.
Ils sont engagés dans la réalisation d'un film infini dont on comprend qu'il ne se terminera jamais, en fait, qui est le film de leur vie. En même temps, ils n'apportent aucune résolution à cette question du travail, du rapport entre travail et liberté.
Los Delincuentes, c'est signé Rodrigo Moreno et c'est sorti en salle mercredi dernier.
L'esprit critique. Mediapart.
Apollonia est un documentaire de la danoise Léa Glob épousant la vie d'Apollonia Sokol, élevée dans un théâtre, le Lavoir moderne parisien, fondé par ses parents avant de connaître une ascension fulgurante dans le monde de l'art contemporain après avoir été travaillée à New York, y avoir été repérée par un riche mécène de la Silicon Valley, puis avoir été pris en résidence à la Villa Médicis.
Absurdité totale. Elle le dit à personne.
How would you define the modern woman?
It's complicated.
Yeah.
To take women out of social stereotypes and physically set them free.
À l'origine, simple exercice pour une école de cinéma, le film se déploie finalement sur 13 années, épousant la carrière de l'artiste, mais aussi la relation que celle-ci noue avec celle qui la filme, ainsi qu'un troisième personnage, connu du grand public puisqu'il s'agit d'une des fondatrices des Femen, l'Ukrainienne Oksana Chatchko, grande amie d'Apollonia Sokol, qui s'est suicidée en 2018. Qu'avez-vous pensé, Raphaël Neuillard, de ce portrait filmé d'une femme qui fait elle-même des portraits fixés sur l'étoile ?
Oui, alors effectivement, si on connaît déjà Apollonia Sokol, on peut avoir l'impression d'une success story avec les étapes que vous avez mentionnées et qui effectivement semble tracer une trajectoire fulgurante. Si on ne la connaît pas, on découvre les choses au fur et à mesure et du coup on a l'impression quand même d'un parcours peut-être plus incertain, plus chaotique, avec certaines étapes qui sont d'ailleurs assez saisissantes, on y reviendra sans doute, mais notamment son passage à Los Angeles, qui est quand même le moment le plus sidérant du film, en tout cas pour les gens comme moi qui ne connaissent pas trop le monde de l'art, c'est assez stupéfiant ce qui se déroule. Alors après, effectivement, le film est un portrait croisé ou un portrait en miroir de ces trois femmes avec une forme de mise en abîme, puisqu'effectivement, Apollonia Sokol se peint elle-même sous diverses apparences, sous divers costume. Elle peint aussi d'ailleurs son amie Oksana Shoshka plus tard dans son parcours. Et donc le film effectivement tourne autour de cette question de la représentation du corps féminin, avec cette idée qui semble, il y a quelque chose qui émerge au fur et à mesure du film, c'est qu'on a l'impression justement d'un corps très libéré d'une certaine manière, qui n'hésite pas à se montrer, à se mettre en scène dès les premiers instants. On est dans une grande intimité avec Apolonia Sokol, mais il se trouve qu'au bout d'un moment, finalement, il y a aussi toute une part de plus douloureuse qui émerge justement dans la difficulté d'être un corps en tant qu'artiste, d'avoir un corps, et c'est aussi quelque chose qui permet à la cinéaste elle-même de s'intégrer dans son film à un moment où elle a une expérience particulièrement difficile suite à son accouchement. Donc effectivement, toute cette question du corps, de l'incarnation, est peut-être, disons, l'un des points de profondeur du film.
Et est-ce que vous avez été un peu gêné par le ton? À un moment, la réalisatrice parle, il y a une voix off, parle d'Oksana Shachko comme d'une légende, et on a l'impression qu'elle veut aussi bâtir la légende d'Apolonia Sokol, et que ça donne un ton quelque peu hagiographique.
Complètement d'accord, c'est-à-dire que ça c'est le début du film, on se demande comment on va tenir, bon heureusement là c'est 1h30, mais on a l'impression qu'on va rester enfermé dans cette tentative de la réalisatrice, donc Léa Gloeb, de fabriquer un monstre, ou en tout cas de fabriquer un mythe. Mais plus on suit, plus on avance dans le film, et on comprend qu'elle n'a pas tourné simplement 2 ans au moment du diplôme de la jeune fille, donc de la jeune Apolonia Sokol, mais que le dispositif filmique est d'une plus grande ambition, et que c'est toute la trajectoire de l'artiste et tout l'itinéraire de la jeune fille devenue artiste que le film va suivre. Et à partir de là, notre regard sur cette jeune fille se modifie petit à petit, donc sur Apolonia, pour y voir, en tout cas moi j'y ai vu quelque chose, presque des illusions perdues féministes. C'est-à-dire que ce film, il rentre dans un corpus là, qui est en train de se créer ces dernières années, dont fait aussi partie le film Showing Up de Kelly Reichardt, dont on avait parlé ici, même si c'est une fiction. Des films qui permettent à des jeunes artistes femmes de s'imaginer, de se projeter dans des modèles de trajectoires d'artistes qui commence avec rien, puisqu'on commence à la goutte d'or. Alors certes, dans un cadre privilégié du point de vue de la création artistique, de l'intelligentsia parisienne alternative.
Oui, on est quand même aussi sur les retombées de la bulle Montmartre. Moi, ce que j'ai eu l'impression, ouais, c'est qu'aussi Léa Gloeb, en tant que jeune Danoise, était un peu fascinée par le romantisme, oui, de Montmartre, et inscrivait Apolonia Sokol dans, bien une sûr, histoire de bohème,
c'est
qui n'était pas
ça,
forcément complètement la réalité.
Complètement, c'est comme ça que ça commence. Et d'ailleurs, avec les images d'archives de la familiale d'Apolonia, qui nous explique d'ailleurs pourquoi elle accepte d'être filmée et d'être filmée dans son
intimité. Oui, c'est-à-dire qu'elle est habituée littéralement depuis sa naissance à être filmée.
Elle a toujours été un objet. Mais alors pour nous féministes, forcément, ça nous amène immédiatement à nous poser la question de qu'est-ce que cette cinéaste femme va faire de la réification de cette jeune fille, d'ailleurs plantureuse, avec un corps généreux, et pas du tout anorexique comme celui d'Oksana. Petit à petit, donc on va suivre cette femme, cette jeune femme, d'abord à Paris, dans ses études aux Beaux-Arts, puis à New York et à Los Angeles, où elle devient, comme elle le dit elle-même, un produit industriel, puisqu'elle retrouve un genre de mécène businessman qui offre des box, des ateliers en boîte, qui d'ailleurs font écho avec ces petites maquettes qui émaillent tout le film, donc cette maison de poupées. Et cette petite fille qui joue à la poupée, là, devient une artiste et fait toute une trajectoire, alors qu'on aime ou on n'aime pas, là n'est pas le point, mais en tout cas qui nous permet d'imaginer des modèles de trajectoires d'artistes, en fait, d'itinéraires d'artistes.
Alice Laura.
Alors, c'est intéressant, moi je dirais pas du tout que qu'Apolonia Sokol est l'objet d'un regard. Et effectivement, elle a été filmée depuis sa plus tendre enfance, et même avant son enfance, puisque même sa conception a fait l'objet d'une vidéo familiale qui lui a été transmise comme un héritage. Donc elle a toutes ces images qui accompagnent sa vie, et elle a grandi dans un théâtre au milieu de comédiens et d'artistes. Donc elle a effectivement toujours été dans des espaces de représentation. Mais je ne crois pas qu'elle soit un objet ou une femme réifiée. Je crois qu'au contraire, elle est totalement maîtresse de son image et elle est toujours le sujet de son image. Et à mon sens, c'est une des difficultés, c'est une des impasses du film, c'est-à-dire qu'elle elle maîtrise tellement son image et son personnage que, à mon sens, pour moi, Léa Globe, elle est larguée. Enfin, elle est loin fascinée. Derrière.
Non, mais alors moi, c'est la question que je me suis posée. C'est en quoi ce documentaire est autre chose qu'une des opérations de valorisation dont Apollonia Sokol tisse l'ensemble de sa carrière.
Je ne sais pas si moi j'appellerais ça une opération de valorisation parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'effectivement fascinant dans ce personnage. Même Raphaël évoquait tout à l'heure la question du corps. Moi, j'ai été assez époustouflée par le visage d'Apollonia Sokol, qui est un visage qui moi, m'évoquait Giulietta Masina. Elle a quelque chose de l'ordre du clown. Enfin, elle est capable... elle passe de... Elle est tellement expressive qu'elle passe de quelque chose qui est de l'ordre de la colère à la farce. Enfin, c'est vraiment un masque. Elle est assez extraordinaire pour
D'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, le film commence comme ça. Elle se prépare, elle se maquille pour entrer sur
elle
scène.
Elle a l'air de se maquiller comme un
elle
clown.
S'épile
la moustache. C'est assez... c'est vrai que c'est passionnant. Et en même temps, en fait, de ce personnage-là et de toutes ces facettes, de cette manière de se travestir, de s'inventer, de se fabriquer, en fait, la réalisatrice n'en tire rien. Et moi, j'aurais aimé qu'à un endroit, entre ces trois femmes, ces trois personnages, il y ait plus de conflictualité qui entre en jeu. Je pense que ça aurait fait surgir quelque chose de plus important dans ce rapport au récit de soi et à la vérité.
Est-ce que, parce que moi c'est vrai que, alors ça suit sur 13 ans, hein, ce qui je pense est vraiment l'intérêt du film, c'est rare d'avoir comme ça la cristallisation, c'est pour ça que je disais que ce film-là lui aussi prenait son temps, même s'il est moins long que celui dont on vient de parler, de celui dont on va parler, mais moi je vous avoue une certaine frustration, au sens où on passe quasiment quand même pas loin de 2 heures en compagnie d'une artiste, et on n'a pas grand-chose de son processus de création, c'est-à-dire que c'est vraiment centré sur la personne, et la peinture reste quand même, il me semble, au second plan, non ?
Oui, absolument. D'ailleurs, du coup, si on considère qu'il y a un processus de valorisation dans ce film, ce qui est peut-être le cas, mais même si ça n'a pas été prévu au départ, effectivement, c'est la valorisation de la personne et pas tellement de la peinture, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, finalement, on voit pratiquement rien de ces peintures. Alors, on en a une vague idée. On voit plutôt au début, d'ailleurs, quand elle peint ses cartes de tarot. Mais plus ça avance et moins on a une idée précise de ce qui se fait. Cela dit, il y a quand même des discours qui sont portés sur ces peintures et des discours qui sont assez intéressants, notamment de la part de ses professeurs. Avec une certaine délicatesse, je trouve, parviennent à dire qu'elle se fourvoie ou que c'est inabouti, mais de manière assez belle. Les peintures même ne sont pas forcément visibles, mais ce qui, en fait, ça infuse quand même la manière, il me semble, de filmer de la cinéaste. Et il y a certains moments, certains plans où on se dit que finalement, elle fait du Apollonia Sokol, notamment quand elle est à Los Angeles, Apollonia est sur la plage, elle est assez déprimée par la situation dans laquelle elle se retrouve. Et il y a tout un travail sur le flou, sur le rapport entre le corps et le paysage qui, d'une certaine manière, peut évoquer. Donc là, il y a presque un effet d'infusion. Mais ce qui est intéressant, effectivement, ce n'est pas tellement la peinture ou le geste en tant que tel que la manière dont cette trajectoire d'artiste s'inscrit dans un certain nombre d'institutions, que ce soit les Beaux-Arts à Paris ou que ce soit ensuite, encore une fois, à Los Angeles, où il y a effectivement cette séquence est quand même assez sidérante avec... c'est comme une sorte d'écurie, quoi. Et il met des pouliches dans des boxes et puis il voit ce qui en sort au bout d'un mois. Et c'est...
Donc, c'est ce mécène très riche.
Oui, Stéphane Simchovitch.
Une des figures de la Silicon Valley.
Surnommé Satan.
Oui, dont on comprend d'ailleurs qu'il a des relations avec Harvey Weinstein. Donc, on avance vraiment dans un terrain très, très miné.
Mais là, c'est le moment d'ailleurs où le film menace de basculer tout à coup dans quelque chose de sordide. Et de ce point de vue-là, il y a un mouvement assez curieux du film dans cette espèce d'ascension qui est marquée en même temps par ces moments de chute et puis de désespoir. En fait, il y a je trouve assez curieusement que le moment du drame qu'évoquait Raphaël autour de cet accouchement terrible de la cinéaste et qui a lieu presque au même moment que la mort de Oksana. Et curieusement, minoré dans le film. Enfin,
y a... bah, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de moments tragiques. Hein. Sokol elle-même a un cancer. Il y a ensuite, bah, effectivement, Oksana se suicide. Il y a ce moment de désespoir à Los Angeles. Et en même temps, ça réussit pas. Alors peut-être que c'était ça l'idée de mettre en tension le côté faux-follet d'Apollonia Sokol avec des formes de tragédie qu'elle traverse, du coup, quand même. Ou en tout cas, le film donne l'impression qu'elle les surmonte tous. Et là, un peu en contribuant à un côté un peu épique.
Mais il y a vraiment y a cette forme de l'épopée. C'est l'idée d'une héroïne qui traverse toutes les épreuves et qui en sort victorieuse. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, le film échappe complètement à quelque chose qui aurait pu être au contraire. Qu'est-ce que c'est qu'un processus de création et comment, qu'est-ce que c'est que l'inspiration et qu'est-ce que c'est que le travail? Et je trouve même, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le manque d'idées de mise en scène de la cinéaste. Par exemple, avec ce modèle des petites maquettes pour représenter les lieux dans lesquels vit Apollonia. Et qui est une idée très pauvre.
Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je crois pas que le processus créatif soit au centre du film. Parce que si on en croit le titre, Apollonia, c'est America. Donc ça nous amène à nous poser la question d'un itinéraire d'exil, bon alors l'exil de la famille, etc., ou du moins d'une trajectoire et d'une tentative d'améliorer son sort, ou du moins d'une tentative de rencontrer le succès, parce que c'est ça dont il est question. C'est pour ça que je parlais des illusions perdues.
Il est un peu légitime de la part de quelqu'un qui regarde un film sur un film documentaire sur une peintre qui est partie vraiment, on l'apprend, elle a même pas son diplôme des Beaux-Arts, où elle arrive à une forme de reconnaissance dans l'art contemporain international.
De voir ses œuvres.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais on les voit malgré tout parce qu'on le voit évoluer son style. C'est vrai que peut-être qu'on pourrait regretter qu'il n'y ait pas assez de plans longs sur les tableaux, mais on les voit malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au début du film, avant, quand elle fait son entrée à l'école des Beaux-Arts et qu'elle peint justement ce sujet de sa famille, de ses origines, de Biélorusse qui se retrouve en Pologne, ensuite au Danemark, enfin en France et ensuite au Danemark, bon, il est question de cet univers de Europe de l'Est ou russophone, on va le dire comme ça plutôt. Il est question de ça et puis ensuite effectivement son travail se vide peut-être comme lui dit un de ses profs et ensuite on voit évoluer son style, on voit évoluer son geste. Les tableaux de fin qui sont d'ailleurs montrés à la fin du film ne sont pas ceux du début. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas la même manière de peindre, c'est pas les mêmes lignes, c'est pas le même style. Donc c'est vrai qu'on ne s'y attarde pas dans le film, mais je crois que ce n'est pas le sujet du film. Je crois qu'il est question plutôt d'une trajectoire de femme artiste. Comment devenir peintre quand on est une femme aujourd'hui?
Oui, mais avec une forme, alors parce que du coup ça revient effectivement à la relation entre les trois personnages principaux, avec une petite forme de marketing sororal quand même, non?
Ça, c'est la question qu'on va poser à Léa Globe.
Bon, on lui posera. Apollonia de Léa Globe, c'est sorti en salle mercredi dernier.
L'esprit critique. Mediapart.
Direct Action est un documentaire co-signé par le réalisateur américain Ben Russell et le français Guillaume Caillot qui se sont immergés pendant 2 ans dans la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le film n'a pas encore de date de sortie en France, mais il a été montré à la Berlinale où il a obtenu le prix du meilleur film dans la section découverte et aussi hérité d'un début de polémique après que Ben Russell a dénoncé un génocide à Gaza. Il a également été présenté dans le cadre du Festival du Réel qui se déroule à Paris. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre en première approche, le film n'est pas un film d'action, du moins dans le sens où on entend habituellement ce terme, et il s'inscrit même moins dans la tradition documentaire dite du cinéma direct que dans celle de l'immersion propre à des cinéastes comme Frédéric Wiseman par exemple. Alors le film dure plus de 3h30 et il est principalement constitué par des plans fixes de plusieurs minutes, hein, que ce soit sur l'affûtage d'une tronçonneuse, une partie d'échecs, un vol de drone, un concert militant, un anniversaire d'enfant, un ballet de crêpes ou un labourage de champ. Qu'est-ce que vous avez pensé, Alice Leroy, de ce choix esthétique pour le moins radical, hypnotique ou somnifère?
C'est intéressant parce qu'effectivement le film n'est pas un film militant au sens où il s'agit pas d'un film d'agit-prop ou d'un film qui inviterait à l'action directe au sens où on pourrait l'entendre comme une action violente. Et il ne se situe pas non plus, je crois, dans une tradition qui serait celle d'un cinéma direct par exemple, enfin à la façon de Wiseman. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a quelque chose dans cette manière de ne pas, par exemple, de refuser l'interview, de refuser aussi tout ce qui serait apparemment de l'ordre de la mise en scène ou de l'intervention, bon, qui pourrait rattacher le film à un cinéma d'observation qui est dans la tradition de Frederick Wiseman. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus formaliste dans cette série, parce qu'on peut dire que le film dure à peu près 3h30 et il est constitué d'un ensemble de plans-séquences, souvent en plan fixe, qui, pas toujours, mais souvent en plan fixe, qui toujours documente des gestes de travail quotidien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je crois qu'il a été tourné sur une durée d'un an et demi, après donc la victoire des zadistes, hein, puisque la lutte contre la construction de l'aéroport est à ce moment-là terminée. Et d'une certaine manière, dans le choix de ces plans-séquences et de leur durée, souvent assez longue, parfois éprouvante, il y a quelque chose qui raconte aussi une certaine manière de faire du cinéma, non pas simplement pour documenter ou observer la réalité, mais vraiment pour y participer de manière très littérale, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au travail dans ce qu'il engage en termes de gestes, de durée, de temps et d'investissement. Et je crois d'ailleurs que les cinéastes racontent qu'ils ont passé pas mal de temps à la ZAD et qu'ils ont eux-mêmes contribué à ce quotidien de la ZAD et du travail de la terre, du travail de la collectivité, etc.
Mais complètement, le film s'apparente plus à un manuel de retour à la terre qu'à effectivement un guide d'action politique, parce que moi, en regardant ce film, j'ai pensé à ces vidéos qu'on trouve justement qu'on trouvait au musée des arts et traditions populaires, qu'on trouve maintenant au MUCEM. C'est toutes ces vidéos en plan fixe sur des gestes, donc c'est la quasi-totalité de ces plans fixes qui sont montés les uns après les autres, aussi à la manière de Notre pain quotidien, qui était un film, si je ne dis pas de bêtises, autrichien, je crois, qui sur l'agroalimentaire. Donc on est dans cette...
Il n'y avait aucun personnage et on voyait juste...
C'est ça, aucun commentaire, aucun personnage et des plans fixes qui s'accumulent les uns après les autres. Et ici aussi, donc c'est cette manière de filmer les gestes, les savoir-faire, c'est-à-dire faire du pain, labourer, replanter, s'offre comme... Parce que moi, je me suis demandé, mais finalement, c'est quoi l'usage de ce film ? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces 3h30 ?
Oui, une fois qu'on se dit que c'est autre chose que le contre-pied du film militant ou du film spectaculaire d'affrontement entre les zadistes et la police, et même si ça s'ouvre quand même dessus et ça se termine dessus.
On peut se dire que bon, c'est un témoignage, c'est un document d'archives, c'est un témoignage de la vie à Notre-Dame-des-Landes après la victoire et une partie à la fin sur la manifestation à Sainte-Soline. Bon, un document qui documente les luttes. Alors là, en ce sens, c'est un film militant pour cette raison-là, mais pas dans sa forme, pour son usage. Et ensuite, je dirais que c'est quand même plus un document qui permettrait à un groupe qui souhaiterait retourner à la terre de savoir utiliser les outils de l'agriculture traditionnelle, qui permettrait de savoir comment planter, comment on retire des insectes, des plantes pour qu'elles tiennent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'intérêt du film, il se trouve aussi là, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'expérience de Notre-Dame-des-Landes après la lutte. Il est quasiment, il y a quelques séquences hein, d'organisation d'attitude, de se préparer par exemple à un interrogatoire de police au tout début du film, mais l'intérêt du film n'est pas là, même si le plaisir du film est quand même là, parce que tous ces plans sont silencieux pour la plupart, et donc la moindre action, si vous voulez, c'est un film qui nous rend très sensible à la moindre action et au moindre dialogue. Et donc dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un discours, notre attention est d'autant plus affûtée et on a grand plaisir à entendre une organisation de manifestation, un concert de punk, un enregistrement de morceaux de rap. Et c'est aussi là le film politique, c'est-à-dire qu'on est prêt quand même à, justement, non pas à agir, mais à recevoir l'action.
Raphaël Neuillard, sur ces questions, effectivement, sur le côté sensible, je pense que si je citais Wiseman, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a une attention très particulière au son, qui des fois, c'est un film autant à entendre, que ce soit le son de la pluie, le son, alors ça peut être aussi d'une chanson de rap militant, mais on l'entend en entier, ce qui n'arrive jamais dans un film habituel,
on entend une
chanson de bout à bout. Et sur aussi le fait que pour aussi peu de plans sur une aussi longue durée, ça nous oblige à regarder, à penser vraiment le cadrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, alors je suis désolé Joseph, mais je vais contredire aussi cette référence à Wise Man, parce que pour moi, c'est vraiment absolument l'anti-Wise Man. C'est un film qui, au fond, aurait pu être tourné n'importe où et qui est paradoxalement presque hors sol. C'est-à-dire qu'on peut filmer 5 minutes durant des mains qui transforment de l'eau et de la farine en pain, mais ça ne dit rien de Notre-Dame-des-Landes. L'intérêt de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas qu'on y fasse cuire des crêpes ou qu'on y plante des haricots, c'est les relations entre les gens qui habitent là. Et à aucun moment, on a l'idée d'une relation entre les habitants. Il y a un plan très long en drone où on entreaperçoit un peu le paysage, les différents hameaux, mais c'est encore une fois, c'est un plan aérien qui ne dit rien des relations des gens qui habitent là. Alors effectivement, après, il y a la question du cadrage. D'une certaine manière, la pâte à pain, c'est presque, on pourrait dire si on est méchant, le symptôme, ou en tout cas l'image du film, c'est-à-dire qu'on attend que quelque chose prenne. Et le problème, c'est que tous les plans sont construits de la même manière. On arrive dans un nouveau plan et on sait qu'on va devoir attendre 2, 3, 4 minutes pour que quelque chose prenne. Alors, ça n'enlève pas la qualité et l'intelligence du cadrage, qui est que justement, il y a presque toujours une sorte de petit miracle qui fait que quelque chose se passe. Sauf que cette durée et ce mécanisme est réitéré pendant 3h30. Et pendant 3h30, on sait qu'une fois qu'il y a un nouveau plan qui commence, on va devoir attendre un certain temps, dire « Ah bah voilà, ok, il y a quelque chose qui a fini par prendre ». Et c'est vraiment, il y a quelque chose en termes de cadrage que je trouve presque autoritaire. Parce que très souvent, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il vaut mieux voir le film en salle, parce qu'en salle, on est coincé par le dispositif de la salle. Et moi, il se trouve que je l'ai vu sur ordinateur. Et là, on peut faire une sorte d'épreuve de la liberté ou non. C'est à quel moment on se dit, bon, ok, le plan a trop duré. Et il y a quelque chose d'autoritaire dans le cadrage même. Et très souvent, on se dit, mais au fond, qu'est-ce que ça lui aurait donné, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de montrer le lieu où le type pétrit le pain? Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de montrer le visage qui est au bout de ses deux mains qui sont en train de pétrir le pain.
Pour le coup, ça pose la question de la confidentialité et des risques.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de faire des images à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Il y a un rapport à l'image, à l'anonymat qui est très important. Et donc, je pense qu'il y a aussi, c'est une forme de réponse pratique à des exigences politiques.
Là, je ne suis pas sûr, parce que quand on fait du pain ou quand on plante... ici, dans les circonstances qui sont celles-là, c'est pas une occupation illégale.
Non, mais c'est des gens qui viennent d'occupation illégale et qu'on construit tout un ethos, hein, plus qu'un discours sur la possibilité de ne pas être filmé, désigné.
De pas avoir de preuves contre eux de l'occupation de tel territoire à tel moment.
Oui, mais après, il y a la manifestation de Sainte-Soline, on voit les visages. Il y a plein de moments où on voit les visages. Et on peut pas dire que c'est simplement par défaut qui décide de cadrer un sou en plastique pendant 5 minutes plutôt que de cadrer les corps. Donc c'est vraiment la question de... et très souvent, alors encore une fois, les plans ne sont pas nuls. Je suis assez virulent, mais le film a évidemment des grandes qualités. Mais très souvent, on se dit, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est aussi serré ou pourquoi est-ce que c'est aussi large? Parce qu'il y a aussi le contre-coup de ça, c'est la caméra qui est en retrait et qui va filmer... En tout cas, l'action se passe derrière un mur. On voit l'encadrement d'une porte, on aperçoit quelqu'un qui rentre, qui sort, qui passe. Quel est le sens de se placer à cet endroit-là? Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que finalement, le cadre vaut comme cadre pour dire « bon ben voilà, j'ai cadré et je vais rester là pendant 5 minutes ». Alors effectivement, parfois, il se passe quelque chose. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme d'autoritarisme, disons, dans cette manière de cadrer.
Alice Leroy, et notamment cette question alors, qui, à travers l'anonymat, pose la question des corps, et effectivement des relations, et aussi de... Parce que donc le film, hein, il faut dire, se place après la victoire donc contre l'aéroport. Et est-ce qu'il n'est pas un peu irénique de ce point de vue? C'est-à-dire que on sait bien que l'aéroport a aussi permis de souder des paysans avec des jeunes qui n'avaient rien à voir au départ avec la terre, et que la disparition de l'ennemi commun a aussi créé des tensions qui, elles, là, sont pas du tout visibles.
Oui, c'est intéressant ce que disait Raphaël sur l'agacement que peut provoquer le film. Moi, je l'ai vu en salle à Berlin et j'avoue que je pense que j'ai pas du tout eu la même expérience, même si je dois dire que J'étais parfois un peu agacée par la durée de certains plans que moi, si j'avais monté le film, j'aurais coupé beaucoup plus tôt, et alors que j'en aurais laissé d'autres durer plus longtemps. Mais je comprends parfaitement l'agacement qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un geste formaliste qui peut apparaître parfois aussi comme une sorte de posture, voire d'imposture, en fait, dans son rapport au lieu et au collectif. Parce qu'effectivement, se concentrer sur les gestes, sur le travail des mains, cadrer un certain type d'action en évitant la parole, c'est aussi éviter tout ce qui fait aussi la conflictualité, la vie sociale à l'intérieur d'une communauté et dont on imagine assez aisément à la ZAD qu'elle n'est pas faite uniquement d'harmonie et de goûter de crêpes, quoi. Et en fait, il me semble qu'effectivement, le film en fait, arrive à un moment intéressant parce que dans la première séquence, si je me souviens bien, on filme en 16 mm un écran d'ordinateur où une voix nous guide à travers des archives vidéo du mouvement. Donc on retraverse les 10 années du mouvement en quelques minutes et en quelques clips vidéo très brefs qui nous montrent les défaites et les victoires et voilà, les moments de joie et d'épuisement. Et tout ça est balayé en une séquence et ensuite on entre dans une autre temporalité, alors qui n'est pas juste celle de la vie de la ZAD, qui est encore une temporalité de lutte, mais dans une autre échelle, on pourrait dire, hein, qui est celle de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus d'ennemis communs ? Qu'est-ce qu'on invente comme quotidien possible pour nous ? Et peut-être qu'à cet endroit-là, le film peut se révéler un peu déceptif parce qu'en fait, il n'entre pas dans les enjeux politiques. Et je trouve que même parfois, il est un petit peu complaisant quand, par exemple, il montre une jeune femme qui est en train d'aiguiser sa tronçonneuse, enfin, qui montre cette question de la répartition genrée des tâches, qui questionne aussi les assignations d'identité et le rapport au travail. Et qu'au fond, en fait, il ne rentre pas tellement dans la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie communautaire. Alors même que c'est aussi un des sujets du travail de Ben Russell, cinéaste, qui a beaucoup filmé, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'utopie, des communautés rurales, et qu'au fond, en fait, il aborde jamais les tensions qui traversent aussi ces communautés.
Mais est-ce que c'est pas aussi, Salim Attenfish, parce qu'il est tenu par, au fond, un discours assez simple, qui est qu'il s'appelle Action Directe, et qu'il nous dit, au fond, aujourd'hui, l'action directe, c'est pas simplement d'affronter les autorités, ou en tout cas pas seulement d'affronter les autorités, mais juste de ralentir.
Complètement, et de retourner à la terre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur ce qui est des relations et de la façon dont s'organisent les différents groupes, les différents collectifs qui vivent sur la ZAD libérée, on pourrait dire, la ZAD libre, je suis tout à fait d'accord, je partage tout à fait ce que disait Raphaël, et c'est effectivement ce dispositif de montage de fragment après fragment qui rend impossible la visibilité des interactions. Sauf que le film se termine par une apothéose de relations, justement. C'est-à-dire que les rares séquences qui mettent en scène des humains en action et pas simplement, des corps en action et pas simplement des gestes de détail, des mains, nous donnent toute satisfaction et justement nous donnent le plaisir de constater ce que peut le groupe ensemble et rendre visible l'entraide, la solidarité dans ces gestes de militants qui aident d'autres à passer un fossé. Donc on peut dire c'est un geste symbolique bien sûr, mais qui rend compte justement de cette solidarité. Et on en a tellement peu vu, c'est-à-dire on a tellement vu que des fragments, que des morceaux de corps pendant toutes les trois heures quasiment du film, qu'à l'instant où des gens sont ensemble, on vit d'autant plus cette solidarité. Il y a aussi cette petite séquence, juste pour la nommer, qui a l'air d'être tout à fait banale. Et cette banalité, elle rend compte aussi de ce qu'est la vie, en fait. C'est-à-dire, l'action directe, c'est aussi juste de vivre lentement et de retrouver des gestes, des savoir-faire artisanaux qui ne sont pas industriels et qui ne sont pas externalisés.
Oui. Alice, puis Raphaël, rapidement.
Et en même temps, cette solidarité dont parlait Salima, elle est quand même... Elle intervient à un moment où, tout à coup, la violence fait retour de manière inouïe, puisqu'on est à Sainte-Soline, hein, et qu'on est vraiment au milieu des affrontements avec la police, et que tout à coup, on se rend compte que ce moment voilà, de retour à la terre, etc., en fait, il est quand même pris dans des dynamiques d'ultra-répression, etc.
Effectivement, ce qui est... c'est beau aussi, c'est justement le moment où ça se, la ZAD de Notre-Dame se fait la jonction entre guillemets avec Sainte-Soline, et que les gens qui auraient pu continuer à faire leur pain et leur crêpe se retrouvent impliqués dans un autre combat, et qu'il y a cette forme de continuité ou de, disons, de plasticité entre les moments du quotidien et puis les moments de lutte plus directe pour le coup. Et ce plan, enfin c'est pratiquement la fin, mais effectivement ce moment d'affrontement qui est vu à distance, mais dont on comprend bien qu'il est très violent, et qui en même temps réitère cette mise en scène dont on a l'habitude de l'action directe, cet affrontement direct avec les forces de l'ordre, qui est toujours un moment spectaculaire, et en même temps dont on mesure peut-être le côté aussi un peu vain. On mesure à ce moment-là aussi la force de la répression dans la durée de ce plan et dans le... cet embrumement comme ça sous les gaz qui apparaît.
Direct Action de Ben Russell et Guillaume Caillot, c'était visible tout récemment au Festival Cinéma du Réel et se devrait prochainement sortir en salle. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé aujourd'hui par Samuel Hirsch.
L'Esprit Critique. Mediapart.